Merci à votre pasteur pour l'invitation. Merci pour votre accueil. Vous savez, mon père était pasteur. Mon oncle était pasteur. Mon beau-père était pasteur. Quand le Seigneur m'a fait passer par des déserts profonds, quand j'étais en région parisienne, j'étais dans la police nationale, je me faisais, par la grâce de Dieu, j'évitais les caillasses dans la banlieue, la nuit, dans les banlieues très rigolotes et très sympathiques. Et quand le Seigneur m'a fait passer par des déserts extrêmement profonds et a donné un sens véritable à ma vie, et qu'il m'a appelé à son ministère, la première chose que j'ai dit « Seigneur, non, pas ça ». Papa était pasteur, mon beau-père est pasteur, mon oncle est pasteur. Seigneur, je ferai ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais pas pasteur. Et j'ai fait pasteur sauf tout, parce qu'il faut jamais dire jamais au Seigneur. Voilà. Mais je suis pas là pour parler de moi. On est heureux d'être là avec mon épouse et de partager ces moments avec vous, puisque ça fait 17 ans, pour nous présenter rapidement, ça fait 17 ans qu'on est dans le ministère. J'ai commencé dans l'église de Reims, en Champagne. J'ai quitté la région parisienne pour commencer sur Reims, en Champagne, sous le ministère de Guy, justement. Et puis ensuite, nous sommes partis en Normandie, où nous avons, alors que nous étions originaires de l'Est de la France, on a fait la région parisienne, la Champagne à Reims. Ensuite, on a fait 7 ans dans l'église de Caen. Et puis là, ça fait 7 ans, on est dans notre 8e année sur Manosque, où par la grâce de Dieu, nous avons aussi été conduits et été bénis aussi par la grâce de Dieu. Je vous invite ce matin, si vous voulez bien, à faire une lecture avec moi dans le livre de la Genèse. Le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin de vous parler de restauration et d'avenir. Et on va regarder ensemble deux, trois courts versets dans le livre de la Genèse au chapitre 41. Et je vais vous parler d'un homme qui a eu deux enfants et qui a donné un nom très particulier à ses enfants, des noms chargés de sens, riches de signification. Vous allez tout comprendre dans quelques instants. Genèse, chapitre 41. Vous savez qu'entre les chapitres 37 et 50, c'est l'histoire de Joseph, sauf le chapitre 38, mais une grande partie de la Genèse est consacrée à l'histoire de Joseph. Et voici ce qu'il est écrit de Joseph au chapitre 41. Et on va lire les versets 50 à 52, s'il vous plaît. Genèse 41, versets 50 à 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Pour Joseph, c'est souvent, très souvent le cas dans la pensée biblique, dans la pensée sémitique, la pensée juive notamment, on ne donne pas des noms aux enfants par hasard, parce que ce sont des phénomènes de mode ou parce que ça nous plaît. On donne un nom à un enfant parce que le nom est lié à l'identité. Le nom est lié soit à un événement fort, par exemple lorsque Dieu va faire une promesse à Abraham, Abraham, père élevé, deviendra Abraham, père d'une multitude. Lorsque Anne, dans le temple, stérile, invoque Dieu, Dieu va lui accorder un enfant. Et justement, cet enfant, elle va l'appeler Samuel, parce que Samuel signifie « Dieu m'a entendu, Dieu m'a exaucé ». Et à chaque fois À chaque fois qu'elle appelait son enfant Samuel ou que quelqu'un, les petits copains, appelaient son enfant Samuel, c'était une façon de proclamer, de confesser en permanence « Dieu entend, Dieu entend, Dieu exauce, Dieu sait, Dieu pourvoit, Dieu entend, Dieu exauce. » Et quand on entendait le nom de Samuel, on l'appelait 10 fois par jour, ça voulait dire « N'oublie pas, Dieu t'entend, n'oublie pas, Dieu t'exauce. » Et puis un jour, c'est Jacob au guet de Jabbok. Le supplanteur, il est brisé par Dieu, frappé à l'emboîture de la hanche. Et à ce moment-là, il n'est plus appelé Jacob, il est appelé Israël. Nouveau nom, nouvelle identité, nouvel avenir, donc un nouveau nom, tu t'appelleras Israël. Prince de Dieu, vainqueur avec Dieu. Et ici, si Joseph donne à ses enfants le nom de Manassé et de Éphraïm, ce n'est pas par hasard, ce n'était pas pour faire joli. Parce que ici, Joseph est en train de confesser. Il veut que chaque fois que l'on appelle son enfant ou que lui appelle son enfant, il veut à chaque fois que l'on se souvienne des victoires que la grâce et la puissance de Dieu seuls ont pu lui communiquer. Manassé et Éphraïm. Une proclamation de ce que la grâce de Dieu a fait dans sa vie. Deux noms chargés de sens qui sont l'expression de ce que Dieu a fait, Manassé, en lui, vous allez comprendre. Et de ce que Dieu a fait pour lui. C'est en réalité le plan d'action de Dieu, le plan parfait de restauration de Dieu dans la vie de celui qui a souffert, je serais tenté de dire peut-être comme personne. Et quand il dit cela, Manassé, Éphraïm, c'est une façon pour Joseph de dire « Je veux vous donner ce témoignage que je suis passé par le pire. J'ai connu des mots qui ne sont peut-être même pas audibles humainement parlant. Mais je veux que vous sachiez qu'étant passé par le pire, Dieu m'a restauré et Dieu m'a donné un avenir, pas ailleurs. » Dieu m'a donné un avenir justement là où je n'en avais plus. Dans le pays de mon affliction. C'est la grâce et la puissance de Dieu. C'est un message extraordinaire. J'ai choisi ce texte, il était sur mon cœur, mais j'aurais pu vous prêcher ça avec tellement d'autres textes de la parole. Mais ici, ce sera très simple, j'irai très vite sur le contexte de Joseph. Simple rappel, on va s'attacher à Manassé et à Éphraïm. Vous savez que la réalité de Joseph, pendant une grande partie de sa vie, c'est la souffrance. Entre 17 ans et 30 ans, il se passe 13 ans. 13 années d'épreuves, 13 années d'injustice, 13 années de souffrance, de rejet, de mépris, de trahison. 13 ans, à 17 ans, pardon, il est rejeté, jeté dans une citerne pour finalement être vendu comme esclave en Égypte. Pour finalement, pour prix de son intégrité, merci Seigneur, pour tes rémunérations. Je n'ai pas cédé devant la femme de Potiphar, je suis resté pur et intègre. Et pour prix de mon intégrité, j'ai été faussement accusé, on m'a mis 2 ans en prison. Vous êtes content d'être venu ce matin? Dépouillé de sa tunique, séparé de son père, faussement accusé. Et quand on regarde la gravité, alors bien sûr, tout ça, c'était pas pour rien. On sait que Joseph est un type de Christ, évidemment, mais c'est pas mon message. On fait pas une étude biblique ce matin. On est dans le pratico-pratique. Vu la gravité des circonstances, frères et sœurs, bien-aimés, vu la gravité de ce qu'on lui a infligé, personne, absolument personne, n'aurait misé 1 euro sur ce jeune à 17 ans en pensant qu'un jour il s'en sortirait sans aucune séquelle morale, psychologique, spirituelle et qu'il aurait un avenir glorieux. Gloire à Dieu. Et pourtant, contre toute attente, Joseph va vivre 2 grands miracles, un miracle à l'intérieur et un miracle à l'extérieur, parce que c'est toujours comme ça que Dieu procède. Juste avant de parler de Manassé et Éphraïm, je veux quand même, parce que ce sont des textes, comme tant d'autres dans l'Écriture, ce sont des réalités, qui ne sont pas toujours simples à appréhender. Joseph a souffert, de mots et de mots que nous voudrions absolument éviter. Des mots M-O-T-S et des mots M-A-U-X. Si, frères et sœurs, vous arrachez chaque page de votre Bible dans laquelle vous trouvez un mot M-O-T ou des mots M-A-U-X que vous voudriez éviter, à part le premier et le dernier verset, il ne va rien vous rester. Je ne fais pas l'apologie de la souffrance, pas du tout. Je montre simplement que si Joseph vit cela, ce n'est pas seulement parce que c'est un type de Christ, mais parce que c'est une pédagogie divine. C'est la réalité de l'Écriture. Il y a une pédagogie de Dieu derrière tout cela. Des mots et des mots que nous voudrions éviter. À quoi je pense? Je pense au mot « ennemi », « difficulté », « problème », « lutte », « adversité », « combat », « outrage », « calamité », « oppression », pression, persécution, prison, trahison, injustice, fournaise, désert, sombre vallée, tempête, orage, impossibilité, épreuve, tentation. Si vous enlevez de vos Bibles chaque page où se trouve l'un de ces mots ou l'un de ces mots, il ne vous reste plus rien. Dieu n'est pas le Dieu du possible, frères et sœurs. Dieu est le Dieu de l'impossible. Une majorité de bien-aimés dans la foi ont tellement de mal à comprendre que Jésus n'a pas dit « je suis la vie ». Jésus a dit « je suis la résurrection et la vie ». Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu que nous servons, c'est celui en qui nous croyons. Bien sûr, je le redis, on ne fait pas l'apologie de la souffrance. Nous ne vivons pas toujours dans des moments difficiles. Dieu, dans sa grâce, a prévu, a promis qu'il avait toujours mesuré l'intensité des épreuves, quelle que soit leur forme, mesuré l'intensité, mesuré la longueur de l'épreuve, et qu'à toute épreuve, il y avait toujours une issue qui était prête avant même qu'on entre dans la difficulté. Amen. Il ne s'agit pas donc d'apologie de la souffrance, mais il s'agit de lucidité. Vous et moi, nous ne sommes pas des types de Christ, comme Joseph, mais nous sommes ses disciples. J'aime beaucoup les grandes promesses du Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors ça, on connaît par cœur. Quelle promesse! Et amen, c'est vrai. Mais quand Jésus dit « ne vous y trompez pas », le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si on a fait ces choses au bois tendre, imaginez ce que l'on fera au bois sec. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous, bien, pas vous, c'est pas possible, ça ne peut pas vous arriver. Mais parfois, il m'arrive d'avoir une lecture subjective et intéressée de la parole de Dieu. Il m'arrive, en d'autres termes, de ne voir dans la parole parfois que ce qui m'arrange. Mais bien sûr, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, en nous et en dehors de nous, c'est toujours faite, vous relisez l'Écriture, l'œuvre de Dieu c'est toujours faite dans les épreuves, dans la difficulté, dans les combats, dans l'adversité. Dieu n'est pas le Dieu qui fait en sorte qu'il ne m'arrive rien. Dieu est le Dieu qui va me donner une dimension de vie intérieure, premièrement, supérieure à ce que je dois traverser. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui va arrêter la tempête quand je vais lui demander. Oui, il le fait, amen. Il est le Dieu qui va m'apprendre à marcher sur les éléments déchaînés. C'est mon Dieu. Et plus vite je comprends la pédagogie de mon Dieu, plus vite je grandis, plus vite j'avance, plus vite je marche sur l'eau, plus vite je sors des fournaises, plus vite je sors des déserts, plus vite mon cœur est transformé, plus vite je passe à un avenir glorieux. Jésus n'a pas empêché la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus n'est pas la vie. Il l'est, amen. Il n'est pas seulement la vie. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est la résurrection et la vie. Dieu n'est pas le Dieu du possible. Dieu est le Dieu de l'impossible. La foi n'est pas faite pour le possible, la foi est faite pour l'impossible. Et dans sa grâce, dans sa pédagogie, Dieu va ressusciter ce qui est mort en moi et me donner un avenir glorieux. Dieu donne aussi un avenir à ceux qui n'en ont pas. Dieu donne un avenir à ceux qui n'en ont plus. C'est le vécu de Joseph en deux temps. Un plan parfait de restauration en deux étapes, indissociables et chronologiques. Tout d'abord, Manassé. Dieu m'a fait oublier. Qu'est-ce que j'aurais aimé dans certaines situations de ma vie, Seigneur. J'aurais tellement voulu me réveiller un matin et ne plus me souvenir de tout ça. Mon Dieu, il n'y a pas un pasteur là, Jean-Marc, tu n'as pas le pouvoir pour faire de l'amnésie dans le cœur des... Il n'y a pas un pasteur qui peut m'imposer les mains et que demain je me souvienne plus de tout ce qui m'a blessé. Oublier, Seigneur, tu plaisantes. De quoi est-ce qu'on est en train de parler, Seigneur ? Dieu m'a fait oublier. Et quand il parle de la maison de son père, il n'est pas en train de il n'a pas une petite nostalgie, vous savez, vis-à-vis de la maison dans laquelle il a grandi, son enfance, etc. C'est une métaphore, c'est une image. Mes peines, c'est pas un chagrin parce que son papa ou sa maman lui manque. Mes peines, c'est pas un simple chagrin, il s'agit de douleurs intérieures, il s'agit des blessures qui ont été occasionnées par la trahison et par l'injustice. La maison de mon père, c'est une métaphore pour désigner ses frères et le mal qu'ils lui ont fait. Ils l'ont jeté dans la citerne, ils l'ont vendu comme esclave. C'est eux qui l'ont trahi. Et ce que j'observe ici, c'est que Joseph, avec beaucoup de réserve, avec de la sobriété, avec de la retenue, avec de la discrétion, il va en parler. Frères et sœurs, le déni n'est jamais une solution, n'est jamais une voie de guérison. Minimiser n'est pas une voie de guérison. Frère, si vous venez à la maison ce midi, il ne faut pas parler de ça, parce que mon mari il va monter dans les tours et tout. On n'en parle pas. Frère, si vous venez ce midi, il ne faut pas parler de ça, parce que ma femme, elle va encore s'effondrer en larmes. Il ne faut pas en parler, non. Joseph, il en a parlé. On ne va pas en parler toute notre vie. On ne va pas tomber dans la critique. On ne va pas tomber dans ce genre de choses. Mais il faut en parler. Si on ne parle pas de nos blessures, il n'y a pas de guérison. Joseph en parle avec discrétion, avec sobriété. Il ne va pas s'acharner, il ne va pas faire un étalage. Il va en parler. Il ne va pas tomber ni dans le déni, ni minimiser. Vous savez pourquoi ? Parce que nier, faire la tête, mettre la tête dans le sable, vous connaissez l'expression, hein ? La politique de l'autruche, on met la tête dans le sable. Nier, si je nie la gravité de mes blessures, je vais nier mon besoin de Dieu. Et je vais nier aussi la dimension de miracle qu'il veut accorder dans la restauration. Si je minimise, je vais minimiser le miracle de Dieu dans ma vie. Oui, on peut en parler. Oui, on doit en parler. Parce que c'est comme ça qu'on trouve une voie de guérison. Et Joseph n'a pas dit, il ne s'est rien passé. Il a dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, parce qu'il y en avait. Et toute la maison de mon père, parce que, mon Dieu, excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce que j'ai morflé. Oui, on peut en parler parce qu'il faut trouver une voie de guérison. Oui, on peut en parler parce qu'on pourra encore témoigner de l'action de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Et si on n'en parle pas, on n'est pas guéri, on n'est pas restauré. Dieu m'a fait oublier, mais comment c'est possible? Je ne peux pas oublier. Si seulement je pouvais être parfois un simple disque dur. Il y a des informaticiens dans la salle, non? Si on pouvait parfois être un simple disque dur, qu'on nous formate une bonne fois pour toutes et que ce soit fini. Là. Vous ne pouvez pas me faire un formatage et puis hop. J'aimerais bien, mais c'est impossible. Et quand Joseph dit « Dieu m'a fait oublier », ce n'est pas de l'amnésie. Dieu n'a pas effacé sa mémoire. C'est pas là. C'est oublier quant à la peine. Oublier quant à la douleur. Oublier quant au traumatisme. Oublier quant à la tristesse. Oublier, c'est spirituel, c'est dans le cœur, c'est pas dans la tête. La mémoire reste. Et Dieu l'a conçu ainsi, c'est exprès. La mémoire devra toujours rester. Le seul moment, frères et sœurs, où vous ne vous souviendrez plus de ce que on vous a fait, de ce que vous avez fait. Vous avez jamais remarqué que j'ai aussi gardé, vous avez gardé aussi le souvenir de vos péchés passés et de vos offenses. Bien sûr que vous vous en souvenez. Je m'en souviens. Et Dieu n'a pas effacé ça. Parce que s'il efface ça, où est la mesure de sa grâce? C'est oublier. Vous savez à quel moment vous avez oublié dans votre cœur, quand vous avez pardonné, quand vous avez oublié? C'est quand le souvenir, écoutez-moi bien, c'est quand le souvenir de l'offense ne vous fait plus souffrir. Là, vous avez oublié. Là, vous avez pardonné. Là, vous pouvez dire, c'est réglé. Quand le souvenir ne me fait... C'est pour ça que Dieu a gardé là. Mais qu'est-ce qu'il a bien fait les choses, le Seigneur? Mémoire, c'est du test. Et quand le souvenir ne me fait plus souffrir, c'est bon. Je sais. Je suis pleinement restauré par sa grâce. Parfois, on se dit, oh, vous savez, avec le temps, ça passera. Un vieux chanteur chantait ça à une certaine époque. Avec le temps, va. Si vous avez la ref, excusez-moi, c'est que vous êtes du 20e siècle. Hein. Les jeunes, ils ont fait, c'est qui celui-là? Si vous avez la référence, c'est que... Voilà. Avec le temps, va, tout s'en... Mais le temps n'efface rien. Avec le temps, il n'y a pas prescription. J'ai été flic, je sais que dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, il y a prescription. Il y a certaines infractions, si on ne vous attrape pas, dans les 10, 15, 20 ou 30 ans, on vous attrape au bout de 30 ans et un jour. Il y a prescription, c'est fini. Mais dans la vie spirituelle, il n'y a pas prescription. Dans la vie spirituelle, avec le temps, ça ne s'en va pas. Il n'y a pas d'effacement. Dans la vie spirituelle, tout ce qui n'est pas traité dans mon être intérieur finira nécessairement par s'envenimer. Ça ne va pas s'effacer. Le temps n'efface rien. Avec le temps, il n'y a pas de prescription. Avec le temps, il y a putréfaction. Ça va s'infecter. Oubliez quant à la peine, oubliez dans l'être intérieur, oubliez quand le souvenir ne me fait plus souffrir. Et frères et sœurs, s'il y a un moment dans nos vies, parce qu'on a tous été, je vous l'ai dit, on est tous des disciples de Jésus. Nous n'aurons pas que des chemins, je le sais, plus j'avance, plus je le sais, le Seigneur m'entraîne. Autant quand j'étais chrétien que quand je suis pasteur, mais quoi qu'en étant pasteur, je suis chrétien avant d'être pasteur. Je suis disciple avant d'être pasteur. Le Seigneur m'entraîne dans des chemins merveilleux, mais à d'autres moments, il m'a entraîné dans des chemins que je n'avais pas choisis. J'ai compris ce qu'il voulait faire en termes de formation, en termes de brisement, en termes de façonner mon caractère. J'ai compris ce qu'il voulait faire dans l'adversité. J'ai compris ce qu'il voulait faire quand il m'a fait passer par un chemin qui ne me convenait pas, mais pour lequel, par la suite, je lui ai dit « Merci Seigneur ». Je suis pas masochiste. Certains déserts, je dis « Merci Seigneur ». Certaines difficultés, certaines maladies, certaines tempêtes, certains contextes d'église, j'ai dit « Seigneur, merci ». Parce que dans ces moments-là, j'ai vu ta main à l'œuvre. Dans ces moments-là, tu m'as délivré de moi-même. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein. Joseph, il a beaucoup souffert. Enfin, excusez-moi, niveau caractère, bon, ce serait un autre sujet. Seigneur, il y a des moments dans certaines épreuves, tu m'as délivré de moi-même. Et je te dis maintenant merci pour ce que j'ai vécu, parce que je t'ai vu changer le mal en bien. Et si aujourd'hui mon âme, si aujourd'hui le souvenir de l'offense trouble encore mon cœur, si ça peut être un sujet, peu importe, je vous le dis, peu importe ce que l'on a vécu, parce qu'on peut être victime d'injustice sur son lieu de travail, dans une famille, avec des enfants, avec des parents, dans une église, dans un couple, dans la société, dans n'importe quel domaine de la vie, n'importe quelle circonstance, on peut vivre des blessures terribles, être confronté à l'injustice. Et peu importe le domaine, si le souvenir de l'offense trouble encore mon cœur d'une façon ou d'une autre, si c'est un sujet de larmes, si c'est un sujet d'agacement, ça va, mais ça m'irrite quand même. Hein. Ça gratte à l'intérieur. Hein. Si ça envahit mes pensées, si tu te couches avec ça, si tu te lèves avec ça, c'est là, c'est présent. Psaume 94, les pensées, mon Dieu, les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Parce que non seulement la mémoire ne s'efface pas, mais en plus, étant l'image de Dieu, je suis un être pensant. Je suis toujours obligé de penser quelque chose. Vous avez jamais remarqué? Vous avez déjà fait l'essai? Vous dites, ah Seigneur, ah 5 minutes de pause, ils ont arrêté de me prendre la tête. Merci, c'est bien. Vous vous allongez, vous voulez vous reposer, et là, ça fait 3 secondes que vous êtes allongé, et là, paf! Et là, ça commence à tourner. Les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Et si d'une façon ou d'une autre, mon passé, quel qu'il soit, m'affecte encore aujourd'hui. Si le passé n'est pas mort, le présent est paralysé. Je ne vis pas, je survis. Et du coup, mon avenir est inexistant, ou en tout cas bien incertain. Parce qu'il n'y a pas eu Éphraïm et Manassé. Il a eu Manassé et Éphraïm. Parce que le passé est un lien terrible. Paul dit, oubliant, à lui non plus, il n'était pas amnésique, hein. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Comment je vais courir si je n'ai pas oublié ce qui est en arrière? Ça fait partie, c'est la première étape du plan de restauration de Dieu pour chacune de nos vies. Et combien dans bien des églises, partout où je suis passé, frères et sœurs, J'ai vu des bien-aimés, des chrétiens, des disciples, des bien-aimés, sérieux, qui aimaient le Seigneur, qui servaient le Seigneur, mais dont la réalité, c'était pas trop vite, frère, parce que là, on n'arrive plus à vous suivre. Il n'y a pas d'avenir. Éphraïm n'arrivera pas si Manassé n'est pas arrivé premièrement. Amen. C'est ça le plan de Dieu. C'est son plan de restauration. Et dans la pensée de Dieu, ça va encore beaucoup plus loin, puisque Dieu veut absolument nous faire vivre, expérimenter une restauration totale. Il n'y a pas de « Ah, c'est vrai que ces derniers temps, mon couple y va un petit peu mieux. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour tous les progrès, tous les pas qui sont faits les uns après les autres dans un chemin de restauration, quel qu'il soit. Amen. Merci Seigneur. Mais la volonté de Dieu, c'est que mon âme soit totalement déchargée. C'est que mon âme soit totalement libre, pleinement restaurée et qu'elle puisse être totalement libérée de tout lien, de toute entrave. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il ne restait dans le cœur de Joseph pas une seule entrave, pas un seul lien. Il n'y avait pas une pensée de tristesse. Il n'y avait pas une pensée d'agacement. Il ne restait plus une pensée d'irritation. Il n'avait plus une critique. Il n'avait plus une parole de travers. Il n'avait plus une souffrance, quelle qu'elle soit, même la plus infime, puisque Dieu avait tout effacé. À part le Seigneur, qui peut faire ça? Merveilleux Seigneur, quel Dieu extraordinaire nous avons. Quand on parle de restauration, je vais parler, vous l'avez compris, essentiellement de Manassé, et je donnerai juste une petite conclusion sur Éphraïm, parce que la plus grande difficulté dans chaque situation de nos vies, c'est pas de croire que Dieu est un Dieu d'avenir. Bien sûr qu'il est un Dieu d'avenir, ça on n'a pas de mal à le capter. Ce qui est beaucoup plus difficile à saisir et à vivre dans son entièreté, c'est la restauration de l'âme. Et quand on parle de restauration, il y a différents principes qui vont conduire à la restauration. Il y a des chemins qui m'emmènent dans la restauration, il y a des chemins qui vont m'éloigner de la restauration. Parce que s'il y a un vrai chemin, le diable, lui, il a aussi des faux chemins. Il a des impasses. Il a des ornières dans lesquelles il aimerait bien que je me perde. Vous voyez ce qui m'instruit beaucoup dans la parole de Dieu et dans les textes, et ici aussi en l'occurrence dans l'histoire de Joseph, ce qui m'instruit beaucoup, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Ce qui m'instruit beaucoup aussi, c'est tout ce qu'il n'a pas fait. Il n'a même pas cherché à essayer de s'échapper de chez Potiphar. Il est bébête ou quoi? Ou alors c'est peut-être parce qu'il a vraiment compris, il a appris à reconnaître la main de Dieu dans toutes ses circonstances. Il n'a même pas cherché à s'enfuir. Il aurait pu essayer de lever une armée. Quand il avait la responsabilité de la prison, personne ne levait le petit doigt dans la maison de Potiphar ou dans la prison sans lui. Il n'a pas essayé de... Non, rien. Il n'a rien fait, il n'a rien essayé. Quand ses frères se sont retrouvés devant lui, Genèse chapitre 45, vous vérifierez, quand ses frères se sont retrouvés devant lui, il n'a même pas essayé de régler ses comptes. Oh. Ne vous affligez pas. Ils étaient à ses genoux, là. Ils étaient à ses genoux. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Ne vous affligez pas. de m'avoir vendu pour esclave. Ben moi, j'aimerais bien que vous vous affligiez un petit peu, puis je peux vous dire que vous vous asseyez, vous asseoir, on va parler, puis moi, je vais vous expliquer comment je m'appelle, parce que moi, je vais vous dire ce que je... Ne vous affligez pas. Parce que c'est pas vous qui m'avez conduit ici. C'est Dieu. Dieu m'a emmené ici avant vous pour vous faire vivre par une grande délivrance. Vous savez, frères et sœurs, je suis conscient que même moi, je suis à la ramasse par rapport au Dieu que je prêche. Mais quand Dieu dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées », c'était pas une phrase en passant. Hein. Quand Dieu dit « Vos voies, V-O-I-E, vos méthodes, vos chemins, vos façons de faire, vos chemins ne sont pas les miens », c'était pas une phrase en passant. Hein. Quel Dieu, quel Dieu. Il n'a pas cherché à régler ses comptes. Pas plus que David n'aurait cherché à régler quoi que ce soit avec Saül. Pas plus que David n'aurait cherché à régler quoi que ce soit avec Absalom. Absalom, le traître. Il connaissait le Dieu souverain. Il savait ces hommes-là, il savait reconnaître la main de Dieu dans toutes les circonstances et il savait se laisser forger, former et façonner par Dieu, comprenant qu'il avait un objectif d'avenir qui transcendait en vérité ce qu'il pouvait concevoir à l'instant T. Il savait, connaissait cette parole du Deutéronome, Deutéronome 32, vous vérifierez, quand Dieu dit « À moi la vengeance ». À moi la rétribution. Ça, c'est mon affaire. Toi, suis-moi. Mais, alors déjà que la mauvaise nouvelle du message, c'est qu'on ne peut pas oublier, enfin pas au sens où on aimerait. Puis la deuxième mauvaise nouvelle du message, c'est que frère, implicitement, vous êtes en train de nous parler du pardon ? Ah non, je vous en parle explicitement, vraiment, ouais, ouais vraiment, ouais, ouais. C'est quand Dieu me dit, fais du bien à ton ennemi, prie pour celui qui te fait du mal, ne maudissez pas, bénissez. C'est pas pour m'embêter, vous savez, hein. C'est parce qu'il sait quelle puissance de bénédiction, de liberté ça suscite en moi. Parce qu'il veut que je sois parfaitement libre, libre de tout. Et libre de tous. Combien de frères et sœurs dans toutes les églises m'ont dit, Stéphane, mais c'est dur de pardonner. Ah, je dis, ah non, 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 non. C'est pas dur de pardonner, non, non. C'est impossible de pardonner. Ça, c'est impardonnable. Mon péché était impardonnable. Si un jour vous voulez comprendre comment on fait pour pardonner, vous méditez en profondeur la parabole du roi miséricordieux, qu'on a malheureusement à tort appelé la parabole du serviteur impitoyable. Parenthèse fermée, c'est pas mon sujet. Quand Jésus, j'ai besoin de sa grâce, quand Jésus dit, parce qu'on dit c'est dur de pardonner, non, c'est pas dur, c'est impossible. Quand Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez... » Ah, on a la même Bible, c'est bien. « Vous ne pouvez rien faire. » C'est quoi qu'on n'a pas compris ? Et c'est seulement quand je suis dedans que vraiment je comprends. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors moi, je vais me positionner. Moi, je vais faire des choix clairs. Je vais faire des choix nets. Je vais faire des choix tranchés. Je vais m'engager dans de véritables chemins de restauration. Je vais comprendre ce que Jésus dit. Sans moi, tu n'y arriveras pas. Tu ne vivras pas une restauration totale et définitive. Et je comprends ce que Paul dit. lui qui est passé par tellement de tribulations dans les églises. Je peux tout par celui qui me fortifie. Son œuvre de restauration, bien-aimé, Dieu veut que notre restauration, quel que soit le domaine dans lequel nous avons besoin de restauration, il veut que notre restauration soit totale. Merci à Dieu pour chaque pas, pour chaque progrès. Mais le plan de Dieu, le projet de Dieu, la vision de Dieu pour chaque membre de chaque église, quelle qu'elle soit, c'est pas des améliorations. Merci au Seigneur, merci de ce que le Seigneur n'est pas un garagiste qui va pas me coller des rustines sur les pneumatiques. Le Dieu n'est pas le Dieu des petits plus. Dieu est le Dieu des restaurations, il est le Dieu des libérations, il est le Dieu de la guérison intérieure, il est le Dieu qui, non pas couvre, le Dieu qui efface. À commencer par mes péchés. Et Dieu, j'insiste sur ce point avant de passer à Ephraim quelques minutes. Je fais attention à l'heure quand même. Dieu insiste pour que ma restauration soit totale, 100%, totale et définitive. Parce que chaque fois qu'il restera dans mon cœur quoi que ce soit, chaque peur, chaque inquiétude, chaque souffrance, chaque ressentiment, la moindre trace d'amertume, la moindre trace de colère, la moindre rancœur, même si ça a l'air anodin. Vous savez ces petites phrases qu'on dit si facilement du genre « Oh, pardon, mes mots ont dépassé ma pensée. » Non, non, nos mots ne dépassent jamais notre pensée. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et s'il reste un petit quelque chose, Dieu veut que ça disparaisse. Parce que sinon le diable, lui, il sait, il saura s'immiscer, il saura profiter de ses petits accès et il saura sur quel levier il faudra agir tôt ou tard pour me ralentir dans ma marche avec Dieu. Le but de Dieu, merci Seigneur, une restauration totale à 100%, une restauration libératrice qui va en fait, enfin, étant pleinement menacée, de pouvoir rentrer dans l'avenir glorieux que Dieu a pour chacun de nous. Ephraim, la deuxième étape du plan de restauration de Dieu. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Je vous laisse remarquer que Joseph n'est jamais sorti d'Égypte. Il a triomphé en Égypte. Dieu l'a fait triompher, lui a donné un avenir justement là où il n'en avait pas. Combien de fois j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi partir de ce lieu de travail. Seigneur, peut-être vous dites, Seigneur, fais-moi partir de cette famille. Seigneur, donne-moi. On aimerait, on croit que Dieu peut nous donner un avenir. La plus grosse difficulté pour les disciples, quand Jésus leur a dit « Vous serez mes témoins », c'était pas jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, ça leur allait très bien, parce qu'ils connaissaient personne. Personne ne les connaissait. Mais quand il leur a dit « Vous irez d'abord à Jérusalem », ça a suscité des tas de souvenirs en eux, parce que Jérusalem, beaucoup de choses se sont très très mal passées à Jérusalem. Puis après, vous irez en Judée. Oh, l'opposition qu'ils avaient rencontrée en Judée. Puis après, vous irez en Samarie. Parle pas à ces gens-là. Et en réalité, le Seigneur les a emmenés justement là où ils avaient été défaits, là où ils avaient été vaincus. Le miracle de Dieu, Dieu n'est pas le Dieu de la vie, il est le Dieu de la résurrection et de la vie. Il est le Dieu de l'impossible. Et son plan de restauration, c'est de me donner un avenir là où justement je n'en ai plus. Peut-être tu penses que ton couple n'a plus d'avenir. Tu te demandes bien en regardant tes ruines. Tu te dis, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Quel avenir j'ai, moi, dans ce couple? Quel avenir j'ai dans cette famille? Mais le miracle de Dieu, c'est de me donner un avenir là où je pense ne plus en avoir. C'est de me ressusciter là où je pense que tout est mort. Parce que c'est le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu que je prêche, c'est le Dieu dans lequel je crois fermement. Un avenir justement là où il n'y avait plus rien à espérer. Joseph n'est jamais rentré d'Égypte. Oh, vous prenez Daniel, il n'est jamais rentré de Babylone. Dieu n'a pas sorti Joseph d'Égypte ni Daniel de Babylone. Il n'a pas envoyé ses disciples aux extrémités de la terre avant de les rendre victorieux à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Dieu nous fait dans sa grâce justement triompher là où tout était fait pour nous détruire. Dieu change le mal en bien. Ce serait un des meilleurs résumés de l'histoire de Joseph. Et certainement, si vous y songez, bien-aimés, peut-être ces 6 mots sont probablement le meilleur résumé de toute la Bible. Dieu change le mal en bien. Amen. On se recueille un instant, s'il vous plaît.